Autant de dossiers Arnaud Roysen dont il est question avec votre invité aujourd'hui, c'est Marie-Hélène Ska.
Effectivement, bonjour Pierre-Yves, bonjour Marie-Hélène Ska.
Bonjour.
Alors, on peut dire que vous avez animé un peu cet été médiatique avec votre interview grand format qui n'est pas passée inaperçue dans le soir. C'était début août où vous aviez eu des mots plutôt durs hein, pour le Parti Socialiste, mais aussi pour Marc Goblet, votre homologue secrétaire général de la FGTB. On va répéter cette petite phrase dont on a beaucoup parlé. Je pense que je suis tout ce que Marc Goblet déteste, une femme, j'ai fait des études et je lis des dossiers. Alors vous allez revoir Marc Goblet aujourd'hui au groupe des 10. Vous vous êtes déjà reparlé depuis cette interview ?
Bien sûr, nous nous sommes vus. Et pour faire un peu d'humour, je pourrais dire, reprendre ce que j'ai dit dans l'interview. Je suis une femme, je lis et je connais mes dossiers. Et j'apprécie aussi de travailler avec Marc Goblet. Je pense qu'on a fait de cette petite phrase une tempête dans un verre d'eau, alors que nous travaillons ensemble régulièrement. Et donc nous nous sommes vus, nous nous sommes expliqués.
Lui, il n'avait pas compris tout de suite non plus, puisqu'il a dit que c'était une déclaration imbécile à l'époque. Et si on la lit entre les lignes, on a l'impression que vous dites qu'il est misogyne, pas très cultivé et qu'il ne connaît pas ses dossiers.
D'abord, ce n'est jamais ce que j'ai voulu dire. Et je ne me permettrai jamais un commentaire sur qui que ce soit, qu'il soit un responsable syndical ou politique de cette nature. Je pense qu'il y a un respect minimum qui est dû aux uns et aux autres. Pour le reste, nous nous sommes vus et je l'ai dit, je le redis, l'intention n'était absolument pas de choquer. Mais ce qui me désole le plus, c'est que dans cette histoire, on a eu l'impression que ce qui était finalement important, c'était les querelles d'égo entre personnes, alors que les combats syndicaux, nous les menons ensemble et nous les menons depuis longtemps, et ça se passe bien. Et donc j'aimerais qu'on revienne vraiment sur l'essentiel.
J'ai eu Marc Goblet en ligne ce matin qui nous confirme que le différent est aplani. Mais est-ce que vous regrettez cette phrase à refaire? Vous la rediriez de la même manière?
Oh, je serais sans doute un peu plus langue de bois, puisque apparemment c'est ce qui plaît.
D'autres mots dans cette interview avaient aussi choqué du côté du Parti Socialiste, puisque vous parliez du parti en disant que vous aviez vu l'exercice du pouvoir à Charleroi et que c'était la ligne « je mets dans ma poche et je décide tout seul ». Vous ajoutiez « je ne crois pas que le PS a changé car le pouvoir est intrinsèquement lié à son mode de fonctionnement ». Extrait donc toujours de cette interview donnée au soir. Alors ça veut dire que pour vous, les affaires au Parti Socialiste, c'est pas oublié et ça relève d'une forme de culture au sein de ce parti ?
Non, je veux dire deux choses par rapport à cela. D'abord, une organisation syndicale, c'est une organisation syndicale, pas un parti politique. Et deuxièmement, de nouveau, mon intention n'a jamais été d'attaquer un parti particulier. Et j'ai d'ailleurs dit que c'était le genre de pratique que l'on retrouvait lorsqu'il n'y avait pas de contre-pouvoir. Et c'est ce qui s'est passé, pas seulement au Parti Socialiste, mais on connaît ça à d'autres niveaux et dans d'autres formations aussi.
Mais là, vous cibliez quand même particulièrement le Parti Socialiste. Ce n'était pas la question du pouvoir absolu, c'était vraiment le Parti Socialiste que vous pointiez.
La question m'a été posée de cette manière-là, mais je réponds très sincèrement que cela vise des situations pour lesquelles il n'y a pas de contre-pouvoir suffisant que pour éviter ce genre de pratique. Pour le reste, notre relation politique est parfaitement claire, puisque la question est souvent posée aussi par rapport au CDNV. Nous n'avons jamais reculé pour contester quoi que ce soit comme mesure à partir du moment où elle est injuste, qu'elle soit pilotée par un parti ou par un autre. Ce n'est pas la couleur du parti qui nous intéresse, mais bien le contenu des mesures qui sont mises sur la table à un moment donné.
Et donc là-dessus aussi, on vous a un peu mal comprise dans cette interview? C'est ça que vous nous dites ce matin?
Je laisse à chacun la lecture qu'il veut avoir des choses. Je ne porte pas de jugement là-dessus. Je voudrais qu'on revienne sur l'essentiel, à savoir sur le fond des dossiers, sur le fond des politiques qui sont menées et de l'agenda qui est le nôtre aujourd'hui.
Le Front commun syndical est donc toujours uni ce matin, FGTB, CSC, CGSLB, mais en particulier FGTB, CSC. Ça ne va pas laisser des traces ce qui s'est passé cet été?
Je ne le pense pas parce que je vous l'ai dit, qu'on a fait une montagne de ce qui n'en valait pas la peine. Et pour le reste, nous nous sommes toujours retrouvés à la fois sur les constats que la société aujourd'hui devient de plus en plus dure et de plus en plus inégalitaire, et à la fois sur le fait que des alternatives étaient possibles et qu'il était grand temps de pouvoir les développer.
Vous vous retrouvez sur les constats. On a l'impression par contre que sur la méthode entre vous, le syndicat chrétien, et le syndicat socialiste, il y a quand même de vraies différences. Vous avez conclu cet accord interprofessionnel sur base du canevas imposé par le gouvernement. La FGTB, elle, n'a pas participé et s'est dissocié de cet accord interprofessionnel. Est-ce que là-dessus, vous allez pouvoir tenir longtemps ces deux lignes différentes tout en donnant cette impression de front commun uni ?
Vous savez, il y a deux possibilités. Soit on décide de fusionner toutes les organisations pour avoir une seule ligne. Je pense que ce n'est pas la situation aujourd'hui. Nous avons plusieurs organisations qui ont chacune leurs instances et leurs modes de décision et donc la manière de déterminer leur mandat. Et donc, il est tout à fait possible que l'on se retrouve sur des constatations communes, mais que ça débouche éventuellement sur des stratégies qui peuvent parfois diverger, mais qui le plus souvent sont des stratégies communes. Exactement comme au niveau patronal, vous avez, je prends l'exemple de l'été, une décision du gouvernement sur les diminutions de cotisations de sécurité sociale qui réjouit certaines organisations patronnelles et d'autres qui disent que ça ne changera rien à leur situation puisque ce n'était pas de cela dont elles avaient besoin. Et donc qu'il y ait des divergences à un moment donné d'appréciation sur une mesure quelle qu'elle soit ou sur une position, c'est ça aussi la démocratie.
Mais on a l'impression, et vous l'évoquiez tout à l'heure en parlant du PS mais aussi du CDNV, qu'il y a quand même toujours ce lien en particulier dans l'aile flamande de votre syndicat, la CSC, avec ce CDNV et que quelque part la CSC continue à faire le jeu de ce CDNV qui est dans ce gouvernement de centre-droite-droite.
Je vous l'ai dit et je le répète, nous jugeons toujours les mesures sur pièce. Et donc je vais prendre un exemple de l'été, le tax shift. C'était une belle perspective pour le gouvernement que d'avancer sur un peu plus de justice fiscale. Alors si je regarde la situation avant l'été et après l'été, avant l'été, lorsque vous aviez 40 000 euros de salaire et que vous deviez payer vos contributions, vous payez 14 000 euros de contributions sur votre salaire. Si vous déteniez des plus-values, vous payez 0 euros sur ces mêmes 40 000 euros de résultats de plus-value. Après le tax shift, et sauf quelques exceptions qui sont encore à définir pour les plus-values, le résultat est le même. Il n'y a donc rien eu comme changement significatif et fondamental en la matière. Il n'y a toujours pas d'impôt sur la fortune ou sur les revenus de la fortune, toujours aucune globalisation des revenus, toujours aucune transparence sur les revenus. Mais par contre, nous assistons à une amnistie fiscale permanente. Et donc, que le CDNV soit dans le gouvernement, qu'il n'y soit pas, si le résultat est un résultat qui n'est pas à la hauteur de nos attentes, et c'est le cas aujourd'hui.
Il n'a pas assez pesé, en tout cas, en l'occurrence, le CDNV, d'après vous, en tout cas, par rapport à ce qu'il avait lui-même mis sur la table dans la campagne, etc.
Manifestement, en tout cas, le résultat n'est pas au rendez-vous.
Mais alors, rien ne trouve grâce, à vos yeux, dans ce tax shift qui sera évidemment un des chantiers de la rentrée, parce qu'on a ces baisses de cotisations sociales dont le but est d'améliorer la compétitivité, de créer de l'emploi, c'est ce que dit ce gouvernement, qui prévoit aussi des baisses d'impôts. Et puis, en matière de recettes, bon, on a la hausse par exemple de la TVA sur l'électricité. On a aussi une augmentation du précompte mobilier. Donc ça, c'est quand même une taxation du capital qui augmente. Est-ce que dans cet accord, il n'y a rien qui vous plaise, Marie-Hélène Ska?
Je ne veux pas faire la fine bouche, mais quand je regarde les chiffres aujourd'hui, je vois que la seule mesure positive qui pourrait être prise pour les travailleurs, c'est la promesse vague de 100 euros de revenus en plus par mois pour les bas salaires d'ici la fin de la législature, donc il faudra encore patienter un petit peu, mais que dans le même temps, c'est des centaines de millions d'euros qui sont aujourd'hui distribués en cadeaux aux entreprises sans aucune contrepartie. Tout le monde doit faire des efforts, mais certains doivent toujours en faire plus que d'autres.
On ne sait pas encore comment on va les pratiquer, ces baisses de cotisations sociales. On pourrait les cibler, par exemple, pour favoriser certains types d'emplois et créer de l'emploi chez nous. Tout ça reste à définir.
On ne sait pas encore comment on va les cibler. Ce qui est certain, c'est que quand nous avons négocié le projet d'accord interprofessionnel, nous avions vu qu'avec ce qui était sur la table, il n'y avait plus d'écart de compétitivité au niveau macro entre la Belgique et les autres pays.
Donc, vous, c'est plus sur ce levier-là qu'il faut jouer. Ça ne sert plus à rien de baisser le coût du travail en Belgique.
Et donc aujourd'hui, baisser le coût du travail sans condition, de manière linéaire et en espérant simplement qu'un jour il y aura de la création d'emplois, c'est une recette dont on sait aujourd'hui qu'elle est coûteuse et qu'elle ne rapporte pas.
Dernier élément, Marc Goblet, justement par rapport à tout cela, a prévu de déposer sur la table du groupe des 10 une réduction collective du temps de travail. Il dit, en utilisant une partie des réductions de cotisations sociales, pourquoi pas réduire le temps de travail des travailleurs plus âgés et permettre à des jeunes, par exemple, d'être embauchés. Est-ce que vous allez le suivre là-dessus?
Donc la réduction du temps de travail, c'est une revendication historique qui revient aujourd'hui. Et elle revient aujourd'hui pourquoi? Simplement parce que le nombre d'heures de travail dans l'économie, il reste le même. Les pression sur les travailleurs augmente et quand je regarde aujourd'hui les mesures qui ont été prises par le gouvernement, les crédits en fin de carrière sont reculés de 5 ans en une fois, les prépensions vont devenir extrêmement difficiles et les jeunes restent sur le carreau. Et donc, ne pas aborder la question de la réduction du temps de travail aujourd'hui, ce serait idiot, mais il faut le faire sans tabou et sans vouloir mettre l'une ou l'autre formule en particulier sur la table. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de voir comment on peut rester plus longtemps actif au travail et comment on peut mettre le pied à l'étrier à des jeunes et à des personnes qui n'ont pas d'emploi aujourd'hui. Donc dans ce sens-là, la réduction du temps de travail reste un levier intéressant.
Merci Marie-Hélène Scard d'avoir été avec nous ce matin dans Matin Première.
Et très bon week-end, 7h52 sur la première dans quelques instants. On parle environnement.
Matin Première, jusqu'à 9h.